السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers mères, chères sœurs, chers frères et sœurs, qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette assemblée. Toutes les louanges reviennent à Allah qui nous réunit ce matin dans la masjid. Allah Rabbul Izzah qui nous permet de vivre ce mois béni de Ramadan. Si on devait qualifier le mois de Ramadan, on dirait que c'est un mois de bénédiction. C'est un mois de rahma, de clémence. C'est un mois de maghfira, un mois de pardon. Et de notre côté, c'est également le mois pour faire le maximum d'efforts. C'est un mois d'acceptation. C'est un mois où Allah nous accepte. C'est un mois de délivrance, où Allah délivre des gens du feu de l'enfer. Où Allah pardonne massivement des péchés. Où Allah peut, je dis même, mais le même, je n'ai pas le droit de dire, où Allah peut pardonner une vie de péché. Ça peut être quelqu'un qui a 50 ans, 55 ans, 62 ans, qui a la retraite. La retraite est 62 maintenant ? 64, ya Allah, il reste encore beaucoup. Et encore. Quelqu'un qui a 64 ans, qui, Wallah Musta'an, durant sa vie, il y a eu un parcours un petit peu chaotique, en montagne russe aussi, on ne peut pas dire, je crois. Voilà, un parcours un petit peu complexe, Wallah Musta'an, avec des moments de bonnes œuvres, des ramadans, on va dire, productibles, et on se rapproche un peu, pour avoir la baraka de l'assemblée, on essaie d'être proche. Et des moments où il y a eu un peu de laisser-aller, il y a eu des erreurs, Wallah Musta'an, ce qui fait de nous des êtres humains. Ça, c'est min tabi'ati bani Adam, ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc, cette personne a 64 ans, 65 ans, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, nous, on va dire un déclic, mais on n'appelle pas ça un déclic. On dit une hidayah qui vient de la part d'Allah, une guidée qui vient de la part d'Allah, qui fait que cette personne réalise que durant sa jeunesse, l'âge adulte, toute sa vie, parce que 64 ans, on est dans le dernier tiers, et Allah seul le sait. Que voilà, j'ai eu des manquements, je ne faisais pas la salah parce que j'étais au bureau, je ne pensais pas à une solution pour remplacer ma salah, ou si c'est une dame, je ne me couvrais pas correctement, j'avais des manquements dans certaines choses, et qu'à un moment donné, il y a la hidayah qui vient de la part d'Allah, qui descend de le cœur de cette personne, et que la personne décide de demander taubatun nasuha. C'est vraiment le moi, par excellence, pour obtenir le pardon de la part d'Allah, Rabbul Izzah. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit une fois aux sahaba, on est dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi, al-Nasai et Imam Ahmed. Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rappel aux sahaba, il les rappelle que le mois de Ramadan est arrivé exactement comme nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans les premiers jours du mois de Ramadan, le rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait aux sahaba. Et c'est donc un rappel qui est profitable pour l'ensemble de la Ummah. Et la première chose que le prophète alayhi salatu wa sallam dit, que c'est un shahrun mubarak, c'est un mois de bénédiction. Alors, on ne va pas entrer dans le sharh, les commentaires du hadith, c'est très long, les savants ont consacré à Allahu Akbar du temps pour commenter, mais juste les mots-clés, quel baraka, une bénédiction qui vient de la part d'Allah. Et quand on dit baraka, ça franchit tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut intégrer dans notre logique humaine, c'est quelque chose qui vient d'Allah, qui vient d'Allah, qui est al-ghani, Allah qui est le riche qui vient d'Allah, qui est Al-Karim. Al-Karim qui est le généreux. Wasi'ul 'ata, celui qui donne sans compter. Les savants disent que chaque instant, chaque seconde, là il est 10h07, les secondes défilent sur l'horloge, chaque seconde qui passe est une seconde de bénédiction et de clémence de notre Seigneur Rabbul Izzah. Et cette bénédiction, pour l'obtenir, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, d'aller à Mecca, d'aller près de la Kaaba pour dire que là-bas j'aurai vraiment les bénédictions. Cette bénédiction, elle vient à toi. Que tu habites à Mecca, à Medina, que tu habites à La Réunion, en métropole, fi kulli zamanin wa makan. Quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, Allah t'accorde, Allah nous accorde cette bénédiction. Le prophète dit, faradallahu alaykum siyamahu. Allah a rendu le jeûne obligatoire durant ce mois. Les savants disent, on est conscient qu'Allah Rabbul Izzah n'a nullement besoin de notre jeûne. Tout comme Allah n'a nullement besoin de nos prières. Tout comme Allah n'a nullement besoin de nos ibadah. Mais si Allah nous les prescrit, c'est parce qu'il y a un bien pour nous. Il ne faut pas taper sur le genou. D'accord. Okay. J'ai l'habitude de frapper sur les genoux des gens, mais ils viennent se faire opérer. Donc, il faut me prévenir. S'il y a un genou volontaire, d'accord, je vais me contenter de mes genoux. Il y a un khair, il y a un bien. Et Allah seul sait le bien qu'il y a pour cette umma dans le jeûne, tant sur le plan spirituel, dans notre relation avec Allah, sur le plan physiologique, pour la santé, mais aussi, et j'allais dire, et surtout sur le plan psychologique, l'équilibre que le somme, que le mois de Ramadan nous apporte. Et ce n'est pas pour rien si notre Seigneur avait révélé cette action également au peuple, aux religions, du livre qu'Allah avait donc révélé avant. Hada. On continue le hadith en mode de speed. Tuftahu fihi abwaabul jannah. Durant ce mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Ouvertes au sens propre, mais également au sens où ce qui découle de l'ouverture des portes du paradis, c'est le vent de guider. Il y a un vent de hidayah qui descend et qui touche les cœurs de chaque croyant. C'est ça que des fois on voit des gens qui n'ont jamais, enfin qui ne fréquentent pas sans porter de jugement, qui ne sont pas vraiment présents à la masjid, et ils viennent. Et je lisais un commentaire d'Ali récemment, il disait que des fois même, on est fatigué, on a mal à la tête, on a faim, on sort du travail et tout, normalement toutes les conditions sont réunies pour qu'on reste à la maison, on se repose, mais on vient à la masjid. Alors quand on va mal, on n'a pas ces situations inconfortables, mais on râle un peu avant de venir. C'est le nour du mois de Ramadan, c'est la hidayah qui vient de la part d'Allah, qui touche tous les cœurs durant ce mois béni. Les shayatines sont enchaînées. Beaucoup de commentaires des muhaddithines, ce qu'on peut dire de façon synthétique, c'est que certains shayatines sont enchaînés, ou d'autres savants disent que les shayatines ont moins d'emprise sur l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est historique, ça. C'est historique dans l'histoire des révélations. Parce que si on remonte, je veux vraiment rester dans notre sujet, on a des versets, il est là magnifique à voir, mais si on remonte dans ce qu'on appelle Kitab ou Bad il Khalqi, le début de la création. Au début de la création, on sait que Shaitan, qui s'est obstiné, qui a fait preuve d'orgueil, qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, il a été chassé des cieux. Et il a demandé à Allah la possibilité de vivre jusqu'au Qiyama pour détourner le maximum de gens du droit chemin. Qui me cite un verset à ce propos? On a qui comme Hufad là? Le Hafez Zuber qui vient d'arriver. Hein? Le verset où Shaitan a été expulsé du ciel. Je le dis pour aller plus vite. Qala Rabbi bima aghwaytani lawzayyinanna lahum fil ardi mas'ud wa la ughwiyannahum ajma'in. C'est fait la promesse de consacrer toute sa vie à détourner le maximum de personnes du droit chemin. Et son but, c'est de ramener ces gens où? Avec lui, dans l'enfer. D'où le verset, « Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru » Moi, je veux des bons houfards devant moi. « Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru »« Inna allaha wa'adakum wa'ad al-haqqi wa wa'adtukum » Que je résume, hein, le tafsir, ce n'était pas l'ordre du jour. Quand Shaitan sera dans l'enfer, Allah le protège la situation, il y aura avec lui des gens. Et il va dire à ces personnes, moi, je n'ai fait que vous détourner du droit chemin. Mais c'est vous qui avez pris la décision de m'écouter. Et donc là, ce sera la situation catastrophique. Allah le protège. Donc, si on remonte au début de la création, Shaitan s'est fait la promesse et il a eu l'autorisation de la part d'Allah, de travailler le cœur des êtres humains à travers ce qu'on appelle les waswas, alladhi, facile celle-là, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, brillant, l'assemblée brillante, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Mais, à la veille du mois de Ramadan, ce pouvoir, entre guillemets, hein, cette capacité à insuffler dans les cœurs des gens et à détourner les gens du droit chemin, lui est repris. Donc c'est vraiment quelque chose qui est historique en rapport avec le début de la création, avec même l'essence et la nature du rôle de l'être humain sur Terre. وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Et il y a dans ce mois béni une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Et ça, bien sûr, c'est une thématique qui sera développée. Dans la dernière décade du mois de Ramadan, Inch'Allah, et les savants disent que cette nuit du destin et les récompenses, donc qui ont l'équivalent de plus de 1000 nuits, ça fait à peu près 80, un peu plus que 83 années de ribas, c'est-à-dire une vie. Quelle espérance de vie pour un homme en France? Il me semble, hein, 80, et les femmes, 82 ou 83. Là, personne ne crie pour la parité, là, non? D'accord? C'est-à-dire, c'est une vie. Une nuit de Laylatul Qadr égale une vie. Et en général, on ne passe pas une vie de 83 années en ibadah. On commence un peu à l'âge de 20, 25 ans, quand on est marié, quand on est posé, quand toute ma stif est sortie aussi, et qu'on est, voilà, on prend un peu plus conscience des choses. Les savants disent, cette rétribution exceptionnelle de ce mois béni, de cette nuit du destin, te donne un aperçu de la générosité d'Allah, de sa clémence, de sa richesse, et comment Allah est prêt à nous donner. Ainsi donc, cette introduction était nécessaire, parce qu'on est, on fait le premier programme du mois de Ramadan, c'était pour avoir un peu, pour se rappeler, rafraîchir un peu notre mémoire, qu'est-ce qu'Allah nous accorde durant ce mois béni, et arriver à la conclusion que c'est le mois par excellence où il faut répondre présent, où il faut tout donner. C'est vraiment le mois où on doit élever notre niveau de iman, on doit ressentir la piété et la motivation pour progresser dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, ce cadeau divin, ce Ramadan, a commencé en l'an, en quelle année? En l'an 2 de l'Hégire. Le Ramadan a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Et si on dit l'Hégire à Sajid, l'Hégire c'est quoi? Nour? Non, l'Hégire, le mot l'Hégire. Voilà, l'Hégire, c'est quand le prophète a quitté Mecca pour aller s'installer à... Ça, c'est un repère historique, c'est extrêmement important. Même quand on étudie le tafsir, je ne rentre pas dans trop de détails, mais repérer le Ahd Makki du Ahd Madani, ça nous permet d'avoir une réelle compréhension des versets. Parenthèse fermée. Le mois de Ramadan, le Ramadan a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Et on a quel verset? Ya ayyuhalladhina amanu, du Rahman. Kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. La traduction, tout le monde le sait. Et depuis l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire depuis l'an 2, le moment où le mois de Ramadan a été révélé, Allah a promis de déverser sa rahma, sa clémence, sa miséricorde, sa pardon, son pardon sur la Ummah. Et il l'a fait, Azza wa Jal. À l'époque où le prophète était là, avec Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les Sahaba, à l'époque où les versets du Coran étaient révélés. Et jusqu'au décès du prophète, cette rahma continuait à descendre. Et après le décès du prophète sallam, cette rahma elle a continué. En fait, ce que je veux dire, je vais raccourcir, cette rahma va continuer jusqu'au qiyam. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience de quelque chose. Ce qu'Allah a promis au prophète sallam, aux sahaba, en termes de bénédiction de rahma pour le mois de Ramadan, quand lui, alayhi salatu wassalam, était présent à Madina, c'est la même chose qu'il nous accorde en 2024 à l'île de la Réunion. Et jusqu'au Qiyam. C'est-à-dire que ce qu'Allah fait descendre durant le mois de Ramadan, c'est une promesse jusqu'à la fin des temps. Rien n'a changé. Si, qu'est-ce qui a changé, Zubair? Nous avons changé. Le cœur d'Abu Bakr al-Siddiq était beaucoup plus réceptif à la lumière du Ramadan que, je prends le nom de personne, que moi, que mon cœur, moi, Ibrahim. C'est évident que nos cœurs ont changé. Ce qui veut dire que moi, quand je démarre le mois de Ramadan, avec à mon actif, entre guillemets, des mois de péché que j'ai cumulés, qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur, Zubir? Des points noirs, des taches. Mais ce n'est pas des taches qu'on peut enlever avec une intervention chirurgicale. Ce ne sont pas des tâches qu'on va voir à travers une échographie ou autre chose. Ce sont les effets, les conséquences des péchés. Ce qui fait que, quand mon cœur est entaché de péché, il devient imperméable. En fonction du nombre de péchés, il est imperméable. Et donc, c'est comme si, que je prends une image, les récepteurs sont bouchés. Et il faudra plusieurs jours de Ramadan, d'efforts, de demandes de pardon, ainsi de suite, pour que, au fur et à mesure, j'allais dire ces artères spirituelles, du coup, pas besoin de coraux, mais ces artères spirituelles se débouchent en obtenant le pardon d'Allah. Et là, progressivement, je commence à entrevoir la lumière du mois de Ramadan. Vous me suivez? Alors que le cœur d'Abu Bakr al-Siddiq, Allahu Akbar, il n'y a pas besoin de comparer. C'est un manque de respect de parler de comparaison. Leur cœur était prêt toute l'année, toute la vie. Et quand le mois de Ramadan entrait et que le flux de rahma, de bénédiction, était multiplié par 10, 15, 20, 10 000, Allahu A'lam, leur cœur se remplissait de cette lumière divine et il devenait encore meilleur qu'avant. Donc, ce qui a changé, c'est qui? C'est nous. Nos cœurs ont changé. Mais vous savez, plutôt que de dire sans arrêt et d'écouter qu'on est mauvais, nous n'est pas bon, et de nous faire culpabiliser. Parfois, c'est un peu inlassant d'écouter des discours comme ça, de dire que de nos jours, les musulmans font des péchés, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, il y a tout ça. Oui, nous sommes entourés de péchés, de fitna. Mais il faut être positif. Nous devons réaliser que ce que nous sommes en train de faire en 2024, nous sommes à La Réunion, pays européen, avec tout ce que vous savez, nous essayons de nous accrocher à notre religion. Et être en France, dans un pays européen, s'accrocher à sa religion, c'est beaucoup plus complexe que de pratiquer intégralement sa religion quand vous habitez en face de Masjid Nabawi, en face de Masjid al-Haram. Vous me suivez? Ce que je veux dire, c'est que on a, et Allah accepte ce que je veux dire, on a du mérite quand même. Il ne faut pas voir que le côté négatif, il faut réaliser que nous vivons dans un contexte où il y a beaucoup de fitna. Et ça, ça ne dépend pas de nous. C'est un des petits signes du Qiyama, que jusqu'à la fin des temps, les fitna, les troubles vont se multiplier. Et les sources de péché, tout ce qui appelle l'être humain vers le haram, vont se généraliser jusqu'à se banaliser. De nos jours, le péché est accessible en un claquement de doigts, en un clic. Mais dans ce contexte extrêmement complexe où les péchés sont partout, essayez de faire ces cinq salats, d'être présent, de lire son Coran. Moi, je vois des gens, enfin, on voit dans le mois de Ramadan, des personnes qui sortent du bureau, ils arrivent, ils ont toujours leur costume ou leur chemise et tout. Ils viennent, ils prennent le Coran, ils lisent, ils font Zohar, ils lisent encore et ainsi de suite. Mais moi, je trouve ça louable. Je trouve ça magnifique. Dans un contexte comme le nôtre, ce qu'on va dire pour résumer ce propos-là, c'est qu'on doit se dire qu'on fait le maximum, on fait tout ce qu'on peut. Et ce qui est important, c'est d'être convaincu qu'on a fait le maximum, qu'on a fait tout ce qui était possible en demandant toujours à Allah de nous donner la possibilité d'en faire plus. Mais sois convaincu que tu es au maximum de tes capacités. Et là, je vous pose la question, on est là pour quoi? On est là pour écouter quelques paroles issues du Coran et de la Sunna, pour apprendre en toute humilité. On aurait pu rester à la maison, dormir, faire la grâce matinée, c'est dimanche. On aurait pu faire autre chose, mais on est là parce qu'on veut apprendre. Ça, c'est de l'humilité, ça. On veut apprendre un peu plus notre religion pour devenir de meilleurs croyants, et le but, c'est de mieux adorer Allah. Quand on étudie les noms d'Allah le mardi soir, quel est le but? Connaître Allah pour mieux, compléter s'il vous plaît, pour mieux l'adorer. Quand on étudie Ar-Rahiq al-Makhtoum, la Sira, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux l'aimer et mieux le suivre, le prendre comme modèle, être convaincu de la perfection de cet être humain, s'imprégner des qualités prophétiques pour réaliser qu'il n'y a pas d'équivalent, personne n'était comme cet homme. Et donc, je deviens amoureux de ce comportement et je décide de suivre la sunna et ainsi de suite. Quand on est présent dans cette assemblée et dans toutes les assemblées qui ont lieu à cet instant, Allahu Akbar, dans les différentes masjids de l'île et du monde, d'accord? Le but, c'est de mieux connaître notre religion pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Là, je vous pose la question, je nous pose la question, vous ne pensez pas qu'Allah est satisfait de nous? Moi, je suis sûr qu'Allah est satisfait de nous à cet instant. Ce n'est pas pour rien que notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a annoncé que quand il y a ce genre d'assemblée, il y a des anges qui viennent et qui rapportent à Allah les personnes qui étaient présentes et Allah sait qui c'est qui était là. Et à la fin, Allah promet que j'ai pardonné les péchés de toutes ces personnes. Et j'ai transformé le péché en bonnes actions. Allahu Akbar. Un ami m'a écrit il y a quelques jours, ou hier, m'a posé une question auquel je n'ai pas encore répondu. Est-ce qu'il y a un doua pour se protéger des péchés? Ça, c'est le marhala, c'est l'étape après, ça, mais pour les péchés que nous avons déjà en nous, être dans une assemblée religieuse nous permet de voir nos petits péchés effacés. Et je vous assure que les petits péchés, c'est beaucoup plus problématique des fois, parce qu'on ne les voit pas. Donc voilà, on réalise, et je ferme cette parenthèse, je continue. Soyons persuadés que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est noble. Notre présence dans la masjid, c'est noble. Le fait de jeûner, de prier, de faire tout ce que nous accomplissons comme bonnes actions, en 2024, dans ce contexte, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une femme qui sort de sa maison, qui met son châle, qui se couvre à notre époque, c'est comment Allah est fier de cette créature, de son serviteur et de cet abida. Donc réalisons que même s'il y a plein de choses, il y a plein de manquements en nous, mais du moment que je suis sincère et que je fais le maximum d'efforts que je peux, Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur et Allah est satisfait de nous. Et je vais reprendre un peu l'état spirituel dans lequel nous sommes maintenant. Je vais vous poser une question, ça va vous paraître étrange. Il y a plein de choses qui vont vous paraître étranges d'ailleurs. Le prophète était une fois assis avec des sahaba et il avait posé plusieurs questions. Pourquoi je vous dis que ça vous paraîtra étrange? Parce que vous allez dire que mais ça c'est de l'ostentation ça, non? On n'a pas le droit. Non, le prophète l'a fait mimba bat-tarrib pour qu'ils s'encouragent mutuellement dans les bonnes œuvres. Donc on va le faire, c'est une sunna. Il a dit aux sahaba, qui aujourd'hui a jeûné? Qui aujourd'hui a jeûné, si vous voulez bien lever le doigt. Et petit, t'as pas jeûné? Tu as jeûné? On va dire, j'entends pas, on va dire que oui. Voilà. Certains sahaba, c'était pas pendant le mois de Ramadan, hein? Certains sahaba ont levé la main, et parmi eux, Abu Bakr. Ah oui. Bon, ça m'a dit, qui, j'oublie certaines actions, mais on comprend le sens du hadith, qui a fait la prière de la nuit? Sahaba lève la main. Qui, depuis ce matin, a déjà rendu visite à un malade? Qui est déjà venu en aide à un frère musulman? Abu Bakr, premier de la classe. D'autres sahaba aussi. Et donc là, si je pose la même question, qui a jeûné? On a entendu. Qui a fait tahajjud? Je pense que tout le monde a fait la salat de tahajjud avant de prendre le suhur. Qui a pris le suhur? Une bonne action. Qui a fait fajr? Je parle pour les messieurs. À la masjid, tout le monde va lever le doigt. Qui a lu le Coran après la salat? Oui, il y a beaucoup d'humilité hein, chez vous, machin. Il n'y a personne qui écrit à moins, à nous-mêmes, les là. Qui a fait shuruq, qu'on appelle également ishraq? D'accord? Qui a fait 2 rakats avant de s'asseoir dans la masjid? Moi tout seul. Peut-être Bilal? Vous l'avez fait? Oui, j'ai vu. Oui. Machin. Et ainsi de suite. Ce qu'on veut dire, c'est que là, notre état spirituel, là nous vivons un rêve spirituel. Nous vivons. Là, on est vraiment, j'aime pas utiliser des mots de plus de 3 syllabes, mais on est dans le paroxysme de la foi. On est au summum de ce qu'on peut produire. Là, il y a le meilleur de Saint-Ajid. Il y a le meilleur de Zakaria. Peut-être un peu comme lorsqu'il était à Arafat il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, l'année dernière, où il était à Arafat l'année dernière. Mais ce qui se répète tous les ans, c'est notre état spirituel durant ce mois béni qui atteint vraiment des sommets. Et là, je vous pose une autre question. Il y a plein de surprises. Si l'ange de la mort, Malik al-Maut, venait à cet instant dans la masjid, comme Mohammed Hamid qui arrivait avec ses grosses lunettes, alors qu'il n'y a pas vraiment du soleil, si l'ange de la mort venait à entrer dans la masjid à cet instant, et qu'il devait prendre quelques rouh, quelques âmes, donc là on n'a pas le choix, là c'est pas dire qui est prêt, qui n'est pas prêt, parce que quand il vient, c'est pour des gens. Donc la question ne mérite pas d'être posée. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si l'ange de la mort venait et devait reprendre mon âme, je kifferais à mort. Wallahi, je kifferais. Vous devez reprendre l'âme de Nour, de Zakaria, de Mohammed. On quitterait ce monde heureux, dans les meilleures conditions. Tu quittes ce dunya en état de jeûne. Et là, permettez-moi, je pense au frère Rachid Omar Allah yarhamhu, qui a quitté ce dunya en état de jeûne. Il est mort d'une crise cardiaque, c'est ça? On appelle ça sakta qalbiya, signe de qiyama. Je ne veux pas sortir du sujet. signe de Qiyam, parmi les signes de la fin des temps, on appelle ça Mautul Faj'a. Une personne qui meurt subitement. C'est un grand Niamat. Il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de maladie. Donc si l'ange de la mort devait reprendre notre âme, on quitterait ce dunya paisiblement. Et certainement, on recevrait, on est au conditionnel, l'annonce, donc les bonnes nouvelles des anges, qu'Allah est satisfait de nous. C'est un rêve de quitter ce dunya en état de jeûne, en ayant fait tahajjud le matin, en état dans une masjid, une assemblée religieuse, en ayant lu le Coran. Mais j'ai senti, il y a une petite hésitation quand j'ai dit ça. Si l'ange, je sens beaucoup de choses quand je vois les gens. C'est pour ça que j'aime les programmes en live, je vois dans les yeux des gens. Vous savez ce qu'on vient de faire là? Je sais, ça a créé un léger malaise. 10% de l'assemblée était un petit peu perturbée. Ce qu'on vient de faire, je viens de toucher du doigt un amal min a'mal al-qulub, une action du cœur, qu'on n'a pas l'habitude de réveiller. C'est comme quand vous êtes chez le kiné et qu'il vous fait un massage classique, mais tout d'un coup, il appuie sur un muscle délicat, le piriforme, ou vous savez, les muscles, le psoas, des muscles qui font un mal de ouf. Et que dit, oui, mais tranquille, ce muscle-là, je ne l'utilise pas pour marcher. Je dis, oui, mais tu ne sais pas, il est là, il te soutient. Il appuie dessus, tu cries, sa mère. Et ça fait super mal. Ben là, on vient de toucher une partie de notre iman qu'on ne touche pas d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite réaction. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer au quotidien. Parce que ça s'appelle penser au retour vers Allah. D'où le verset « Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ». Je lis les traductions, sinon je prends l'habitude de ne plus traduire ces derniers temps. « Et craignez le jour, vous serez ramené vers Allah, alors chaque ruh, chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. » Allama as-sa'di, rahimahullah, Allama as-sa'di, tafsir magnifique, tafsir exceptionnel, que je n'ai pas amené aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon travail Ibn Kathir. C'est notre tafsir officiel, c'est le tafsir de notre cursus, de notre parcours. Il n'y a pas mieux qu'Ibn Kathir, mais Ibn Kathir, 8e siècle de l'Égypte, 8e siècle de l'Égypte. En français, ça fait 12e siècle, il me semble, non? 12 ou 13e siècle, dans le calendrier grégorien. Sa'di, 20e siècle, contemporain. Jamais un contemporain n'aura le niveau d'un pieux prédécesseur, c'est clair, d'un ancien. Mais Sa'di, pourquoi j'insiste beaucoup sur Sa'di, c'est quelqu'un qui a vécu à notre époque, qui a vu les fitnas, qui a vu les péchés de notre époque, et son tafsir, il est 20 fois moins volumineux qu'Ibn Kathir. Ibn Kathir, je ne peux pas l'amener en entier, il faut une ceinture lombaire. Sa'di, je l'amène partout. Mais Sa'di, il ne fait pas de commentaires, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de tafsir Qur'an, bil Qur'an, il te donne juste des leçons de foi, et c'est ça qui est puissant. Il te permet de te resituer, toi, à travers « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ». Il ne se contente pas de te commenter le retour vers Allah, comment ça se passe, l'ange de la mort, les anges qui viennent, le convoi des malaïkas. Il ne te dit pas tout ça. Ce qu'Ibn Kathir va développer en 2 pages et demie, il le fait en 3 lignes. Mais il te dit, « Oh Mohammed, quand l'ange de la mort reprendra ton âme, comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu es prêt maintenant ?» C'est vraiment les phrases qui, j'allais dire les phrases qui tuent, non, les phrases qui réveillent plutôt. C'est les phrases qui te touchent directement, et j'appelle ça un tafsir waqi'i, un tafsir qui te permet de comprendre les versets et de les vivre au quotidien. Allah yarhamhu wa yuwassi'a qabrahu. As-Sa'di rahimahullah explique que wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, c'est historique comme verset. C'est un des derniers versets, il dit que c'est le dernier verset qu'Allah a révélé. Et pourquoi c'est puissant? Parce que ça nous fait remonter à l'histoire de l'humanité, parce que les révélations, depuis Torah, Zabur, Injil et tout, Coran, s'arrêtent avec « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ». C'est-à-dire qu'à ce moment, Allah ne s'adressera jamais plus directement aux êtres humains. Une fois, il y avait une des épouses du Prophète qui pleurait après sa mort. On lui a posé la question « Mais pourquoi est-ce que tu pleures autant, notre Habib, auprès de son Seigneur ?» Il dit que ce n'est pas pour le départ de Mohammed sallam que je pleure uniquement. Pas uniquement pour ça, mais la mort du prophète, c'est « inqita'ul wahi », c'est qu'il n'y a plus de wahi. Allah ne s'adressera plus à nous, jamais, directement. Si on veut savoir ce qu'Allah attend de nous, il faudra maintenant revenir vers les livres. C'est-à-dire que quand on aura un problème, une situation complexe à gérer, on n'aura plus le wahi qui vient de la part d'Allah pour nous donner la voie à suivre. Ainsi donc, ce verset, il complète les révélations. Et donc, on doit donner une importance capitale à la réflexion sur le moment où on doit quitter ce dunya et retourner vers Allah. Yassa Ali, rahimahullah, dit que ce verset englobe l'annonce de bonnes nouvelles, que le jour des comptes, tu auras tes récompenses, mais également une mise en garde. Le jour des comptes, quand tu retournes auprès d'Allah, il n'y aura pas d'injustice, mais dans le sens aussi, si tu as fait quelque chose de mal, ton Seigneur retient l'erreur. Donc il y a tarhib et il y a deux mots, il y a tarhib et tarhib. L'annonce de bonnes nouvelles, mais également mise en garde. Il y a les deux de ces versets. Et As-Sa'di, rahimahullah, dit que wabidouni, je dis en français, sans cette connaissance et cette conviction du retour vers Allah, tu ne peux pas pratiquer sereinement, correctement, de façon cohérente ta religion. Je répète, si tu n'as pas intégré wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, si ça n'a pas trouvé sa place dans ton cœur, si tu ne penses pas à ce verset et à ce moment au quotidien, si ça ne fait pas partie de ta vie, tu ne pourras jamais être un vrai croyant. Dans le sens où le muttaqi qui reste dans le droit chemin et qui ne dévie pas une seconde. Parce que c'est ce verset, c'est ce moment qui nous permet de nous accrocher. Quand on perd un proche qui a déjà assisté à un sakarat, levez le doigt. Bien sûr, et j'étais là. Quand on vit le départ d'un proche, c'est un choc émotionnel avant tout. Parce qu'on perd un papa, on perd une maman, on perd quelqu'un qu'on aimait. Mais c'est également un rappel, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand rappel que la mort. Quand on perd quelqu'un qu'on aime et qu'on donne son rusl et qu'on le transporte, on le porte, quelqu'un qui était autonome, qui n'avait besoin de personne, qui était bien, qui était un leader, un père de famille, et du jour au lendemain, il est livré à des gens pour qu'on le lave, on le baigne, on le nettoie, et qu'on l'habille, et qu'on l'enterre, et qu'on ne le verra plus jamais, ça crée également un déclic spirituel. On pense à la mort. C'est là que « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah » retrouve sa place. Ce « amalul quloub » ressurgit. Et on remarque qu'après le décès d'un proche, on s'accroche à la religion. Ça, on le voit dans toutes les familles. Même si, sans jugement, il y a des gens qui ne priaient jamais, qui n'étaient pas assidus, quand ils perdent un proche, on les voit à la masjid régulièrement. On voit qu'il y a un changement. On voit parce que la personne a pris conscience de quelque chose. C'est quoi le départ de... Si on continue à vivre, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais si on analysait « wal asri innal insana lafi » que l'être humain de la perdition, si on continue à vivre les yeux braqués sur mon travail, ma profession, ma famille, mes biens, ma santé, mes factures, bref, mon mode de vie, mon dunya, pour faire simple. Si tu continues à vivre avec les yeux braqués uniquement sur ce dunya, tu es dans la perdition. Tant que les yeux ne quittent pas un instant ce dunya, et que les queues ne se déconnectent pas pour se connecter à Allah et aux réalités de l'au-delà. Essentiel. Donc, j'arrête avec cette thématique, parce qu'on a encore beaucoup de versets à voir. Donc, très souvent, c'est quand on perd quelqu'un qu'on comprend, et que cette action du cœur apparaît. Et ça nous donne des âmes, ça nous permet d'être assidus de nos bonnes œuvres. Nous, ce que nous voulons travailler à travers cette intervention, et les versets qu'on va voir, c'est justement, ce sont ces actions du cœur. Qu'est-ce qui nous manque, nous, musulmans pratiquants, qui faisons déjà notre prière et tout, chacun son degré de pratique, ça c'est connu que d'Allah. Ce qui nous manque, c'est un soutien du cœur. Parce que nous pratiquons très souvent de manière superficielle, il manque. D'ailleurs, nous voyons quand nous prions, on s'accroche ou pas ? On s'accroche, mais pas tout le temps. Qui peut rester concentré pendant les 24 jusqu'à la fin ? On est humain. Mais sachez que les sahaba, quand ils disaient qu'ils passaient une nuit en Qiyamul Layl, ils s'accrochaient, ils pleuraient à chaque verset, ils pensaient à Allah. C'était quelque chose d'exceptionnel en termes de spiritualité. Il nous manque cette présence de ruh, cette présence de spiritualité qui va nous permettre de donner une autre en pleurs aux bonnes actions qu'on accomplit au quotidien. C'est le but de notre intervention. Et justement, je continue avec Saadi pour compléter. Celui qui a intégré ça, celui qui n'a pas intégré, il ne pourra pas pratiquer correctement, et comprenons que celui qui l'a intégré, toutes les portes des bonnes œuvres lui seront ouvertes. Et lorsqu'un péché se présentera devant sa porte, il pourra fermer cette porte en toute facilité, avec grande aisance. Quel que soit le fitna, je vais vous donner un exemple pour qu'on ait un discours terre à terre, pour qu'on ait un discours qui nous parle, sans sombrer dans un discours sexiste, on ne parle que des péchés des hommes et pas des dames, mais je parle aux gens que je vois. Même si, on va dire, imaginez, quel serait le Mohamed, parce que tu es dans mon angle, tu as 60 degrés, c'est l'angle où on regarde, d'accord ? Quel serait le péché le plus difficile à gérer pour un homme ? Oui, on a compris. Oui, mais je peux dire à ton épouse que tu es quelqu'un de très correct, machin. Il faut juste les lunettes, il ne faut pas abuser. D'accord ? Les lunettes de soleil. Je disais donc, vous êtes au travail, c'est un discours là, un exemple pour les messieurs. Ou même Zoubert qui est son épouse. Vous êtes, d'accord ? Attaché. Si donc, vous êtes au travail, vous avez une stagiaire. Nous sommes des êtres humains. Une jeune stagiaire, voilà. Je ne donne pas de qualificatif, parce que voilà, où est-ce qu'on est, une jeune stagiaire, et ça peut être, ou c'est, une porte d'entrée des waswasa. J'ai jamais dit que la femme est un outil de chat. Attention, j'ai jamais dit ça. Mais la faiblesse de l'homme, vous savez, ces hommes, hein, c'est n'importe quoi, hein, ces hommes, l'homme a cette faiblesse qui fait que s'il y a une femme d'une certaine beauté, le cœur risque de balancer. Quel que soit l'âge, ce temps, allez-vous confirmer ? Oui, il dit, mon épouse aussi est là. Quel que soit l'âge, il n'y a pas de distinction. Masti. Masti, il est là tout le temps. On est faible. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais à partir du moment où tu as intégré je vous assure qu'il n'y a rien qui se passe en termes de shahawat, le iman reste rasikh. Reste ferme, le cœur reste en relation avec Allah, le regard reste baissé, on fait le job. Si tu vends des pièces détachées, tu répares des voitures, tu vends des voitures, tu fais le job. Yeah, c'est ce qu'il faut faire. Mais il n'y a aucune tentation, il n'y a aucun risque de glisser avec le péché. Pourquoi ? Parce que le iman est présent. Ce n'est pas pour rien, si le prophète m'a parlé. Le jour de Qiyama, parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, dites-moi, Luqman défaille. Luqman, les bases, s'il n'y a pas les bases, il ne faut pas se mettre devant. Parmi les 7 catégories de personnes qui seront, recule pas, reste, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Rajulun, oui, il y a de ça. Rajulun da'atuhu maratun, dhatu mansibin wa jamal. Un homme, on dit un jeune homme qui est beau lui-même, qui est attirant, et qui reçoit les avances d'une jeune femme qui est belle. Et le hadith dit bien une femme de haute lignée, une femme importante dans la société, et qui est très belle. Et que les conditions du zina sont réunies. Je prends cet exemple tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été en Thaïlande, mais je prends toujours l'exemple de la Thaïlande, parce que c'est un pays chelou, je pense. Vous êtes parti pour un salon. Quel genre de salon en Thaïlande, je ne sais pas. Vous êtes en voyage, seul. Votre épouse n'est pas là. Et justement, chambre d'hôtel, comment on appelle ça, des chambres qui communiquent là ? Connecting room, il y a une hôtesse, il y a une femme, voilà, et ainsi de suite. Les conditions du haram sont réunies. La première condition, c'est quoi ? Madame ne voit pas moi, donc tranquille. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas le regard des gens de la communauté, il n'y a pas d'aprawala, il n'y a pas de... Kala sniper, il n'y a rien du tout. Donc tranquille, na'oudhu billah. Ton iman est présent parce que tu crois à wattaqu yawman turja'una fihi ilallah wallahi al'azim. Il n'y a pas une seconde où ton iman ou ton cœur va vaciller. Parce que le iman est présent. Donc, ikhwani akhawati fillah, a'malul quloub, on néglige. On ne donne pas suffisamment d'importance aux actions du cœur. Mais c'est ça le moteur de la spiritualité. C'est ça qui te permet de rester éloigné des péchés. Et c'est cette qualité, ces qualités qui te permettent de t'accrocher à ta religion et d'être le meilleur des serviteurs d'Allah. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est le moment où on doit se dépasser, accomplir des choses magnifiques. Si je vous dis jeûner, faire la salat, lire le Coran, faire la salat de Tarawih, j'ai cité quatre actions. Ça vous parle? Ça nous parle à tous. Parce que notre Ramadan est axé autour de ces actions. Tout le monde le fait, alhamdoulilah. Si je vous dis soumission à Allah, obéissance à Allah, amour et crainte d'Allah, on est d'accord avec le principe, personne ne va contester. Je dis oui, on signe tout de suite, je veux. Mais c'est beaucoup plus abstrait. Je me dis oui, mais comment? Soumission, mais expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire justement? Il y a des choses à faire pour obtenir ces qualités. C'est ce qu'on appelle des a'malul quloub. Ce sont des qualités de foi, on va juste citer, qu'on obtient lorsqu'on est avant tout constant dans les bonnes actions. Pas d'istiqama, pas d'a'malul quloub. Si j'ai juste une pratique assidue durant 30 jours, de l'année, ça ne rentre pas, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une pratique toute l'année pour que ces a'mal al-qulub pénètrent le cœur, mais ce n'est pas suffisant. Mais aussi et surtout, si les actions sont accomplies avec, j'énumère sans détailler, présence de cœur, uboudiya, un lien, ressentir le lien d'adoration. C'est-à-dire que quand, je dis, j'explique pas, quand tu fais sijdan, hein, quand tu pose ton front sur le sol, hein, réalise que tu poses ton front devant le Seigneur des mondes et que tu te, on appelle ça al-inkisar ou amam Allah, tu disparais. Toi, il n'y a plus de directeur, de grande personne, de quelqu'un d'important. Tu n'es rien et tu es une personne remplie de zunoub, de péchés, de manquements et Allah t'accepte pour poser ce front devant lui, devant Al-Ghani, Al-Karim, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Tawab, Al-Ghaffar et c'est une opportunité et tu implores, tu loues ton Seigneur, tu lui demandes pardon, Tawba, ressentir le Uboudiya. Ça, ça fait partie également des A'mal Qulub. Ressentir l'amour pour Allah dans chaque bonne action. Que ton cœur brûle d'amour quand tu te prosternes. Je vais garder l'exemple de la prosternation. Et que les actions sont bien orientées. On appelle ça l'ikhlas. Ikhlas, c'est pour Allah, et donc pas pour faire voir aux gens, bien sûr, mais également ikhlas dans le sens où tu ressens, c'est un peu technique, c'est un peu complexe, ce que les ulama aqidah disent que al-ibada huwa at-tadhallul wal-khudu' wal-istislam lillah. Ressentir la servitude, le lien d'obéissance et la soumission à lui. Des thématiques qu'on essaiera de développer, si on a le temps. Les qualités du cœur, c'est également la conviction qu'Allah t'observe. Quand tu te prosternes, tu sais qu'Allah est en train de te regarder. Et donc, tu t'appliques. D'où le verset de la sourate Shu'ara. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Allah te voit. Quand tu te prosternes, tu t'assois, tu retournes en prosternation. Allah t'observe. Conviction. Mais également être convaincu qu'Allah nous observe quand on est face aux tentations, pour rester ferme dans l'éloignement. Et également, connaissance, adorer Allah avec connaissance des qualités à l'asma wa sifat, ça appelle de la connaissance religieuse, mais également une crainte permanente, ce qu'on a vu, du jour où on retournera vers Allah, où Allah va nous rétribuer pour nos bonnes œuvres, mais également où on risque d'être puni pour nos péchés. Vous avez décroché déjà? On reste accroché, Inch'Allah. Alors, pour bien intégrer cette notion de présence de cœur, d'amour, de crainte d'Allah, de soumission à lui de nos actions, nous vous proposons un voyage. Vous avez vos passeports? Un voyage. Quel genre de voyage? Quel genre de voyage serait profitable, Nour? Hajj? Fatwa pour le Hajj, c'est compliqué. Umrah? Ça apporte. Mais autre chose qui va nous apporter dans l'immédiat, beaucoup plus. Hein, quel genre de voyage? Un voyage de le temps? Non. Je n'ai pas encore ouvert de secte pour l'instant. Je ne vous propose pas ce genre de choses. J'y réfléchis, mais pas pour maintenant. Je vous parle d'un voyage au-delà du temps, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Un voyage maintenant, là tout de suite, vers l'au-delà. Nous allons franchir les étapes spatio-temporelles. Nous allons dépasser l'étape de cette vie, la mort, la résurrection, le jugement. C'est comme si on monte, on monte, on monte, on monte. La remise des livrets d'action, le passage sur le surat, on dépasse tout ça. Et on vous ramène, car Allah nous a ramené à travers la révélation vers une scène de l'au-delà qu'on retrouve dans la sourate Al-Insan, où Allah nous permet de voir un échantillon de personnes qui sont déjà dans le Jannah. C'est comme si qu'une fenêtre s'ouvrait sur le Jannah et Allah nous permettait de voir ces gens qui sont heureux. Mais on ne va pas parler des bienfaits. Ça, on a développé en tafsir Latanié. On ne va pas parler des bienfaits qu'ils ont dans le Jannah. Mais Allah nous révèle quelles étaient leurs qualités. Qu'est-ce qui les a amenés vers le Jannah? Qu'est-ce qui leur a permis de franchir toutes ces étapes difficiles de l'au-delà pour être installés confortablement auprès d'Allah Rabbul Izza dans son paradis et des gens qu'Allah a appelés à qualifier de عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ de عِبَادُ اللَّهِ et également de إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. Allah les a surnommés Al-Abrar. Allah les a surnommés Ibadullah, ses serviteurs. Donc, l'étude de ces versets nous permettra de savoir quelles étaient leurs qualités. Et on va voir qu'il y a des actions externes, mais aussi et surtout des a'malul quloub. C'est ce qui leur a permis d'accéder au Jannah. On va aller un peu plus vite. Innal abrara yashtabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Si vous avez la possibilité de prendre votre téléphone et d'ouvrir une application avec la traduction du Coran, ce serait bien. Ça nous ramène au verset à la sourate Al-Insan, au verset 5 à 12. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرًا. On ne va pas traduire ce passage parce qu'on ne le commente pas, mais là on a les noms et les deux catégories, sachant que Ibadullah a un grade supérieur à Al-Abrar de ce verset parce qu'eux, ils bénéficient de ces sources, de ces fleuves du paradis à n'importe quel moment et de façon épurée. Donc ça, on ne rentre pas dans ces détails. Ibn Kathir, rahimahullah, commente ensuite les qualités qu'Allah a énumérées. Quelles étaient leurs qualités? On a pris beaucoup de temps en introduction, je suis désolé, je voulais terminer à 11h, il reste 10 minutes, mais on va essayer de ne pas faire de tafsir, juste des explications. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissaient leurs vœux et redoutaient le jour dont le mal s'étendra par Dieu. Ibn Kathir rahimahullah explique que c'était des gens qui, lorsqu'ils faisaient une promesse à Allah, ils tenaient leur promesse. Mais dire que si notre Seigneur nous dit qu'ils respectaient leur engagement, les engagements personnels, il faut suivre, hein, qu'ils avaient pris avec Allah, ça veut dire que dans les engagements directs qu'ils découlent de la révélation, ils étaient déjà assidus. C'est-à-dire que c'est très fin, c'est très technique, et ça, la traduction ne vous apprendra rien. Il faut vraiment creuser et aller vers des tafsirs pour comprendre que, oui, ils sont fidèles à leur, quand on fait un vœu, ils respectent leur engagement, mais ce qui veut dire, ça implique que dans les engagements qu'ils avaient déjà avec Allah, ils étaient déjà performants. Et là, il y a une première leçon qu'on retient, une première qualité de foi de A'malul Quloub, c'est la persévérance, l'effort, l'assiduité dans notre engagement envers Allah, dans la promesse que nous avons faite à notre Seigneur, Rabbul Izzah. Et on appelle ça « As-sabru ala ta'a », la persévérance dans l'obéissance à Allah, Rabbul Izzah. C'est comme lorsque vous faites, je prends un exemple maintenant que nous vivons au quotidien. Lorsque le matin vous lisez « Allahumma inni asumu radan lak », qu'est-ce que vous faites là? Le niya, oui. Mais au-delà du niya, c'est une promesse. Et oh Allah, je m'engage à jeûner aujourd'hui pour toi, ô mon Seigneur. Et quand on fait cette promesse, on tient la promesse. On a une promesse d'une vie envers notre Rabb, c'est de l'adorer, de ne rien lui associer, de faire ce qu'Allah attend de nous et de rester éloigné des péchés. Et là, ça englobe toute la pratique de la religion. La première qualité des gens qui ont accédé, qui sont de le Jannah, qui est décrit dans la sourate Al-Insan, c'est qu'ils étaient sur le istiqam, la fermeté de leur engagement envers Allah. Ils étaient assidus. Yufuna bin nadhri. Oui, et Ibn Kathir dit également, en même temps, s'ils ont été qualifiés de personnes abrar, de pieux, qui étaient dans l'adoration, ça veut dire qu'ils étaient également éloignés des péchés. Et là, on va voir ce qui les motive. Yufuna bin nadhri, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, et redouter un jour dont le mal s'étendra partout. On parle de quel jour? Le jour de Qiyam. Ibn Kathir dit, on accélère un peu, ça, c'est la réaction de iman d'un croyant. Ça, c'est lorsque le croyant a intégré wattaqu yawman. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Je fusionne entre Ibn Kathir et Sa'di. Lorsque tu intègres wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ça te permet de garder un visuel sur le Qiyama tout le temps. Ça, c'est une qualité qui est essentielle. Que tu penses à l'au-delà à chaque instant de ta vie. Le matin, quand tu te réveilles, tu penses au Akhira. Dans ton travail, de temps en temps, tu te demandes quel est le regard d'Allah sur moi à l'instant T. À ce moment-là, est-ce que Allah est satisfait de moi ou non? Est-ce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, si l'ange de la mort venait reprendre mon âme maintenant, est-ce qu'Allah est content? Est-ce que Allah va demander aux anges de me dire « Ya Yatuhan, nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki, radiyatama » ou autre, Allah nous protège. Ce fikar, ce souci, cette présence de cœur, de spiritualité, cette présence, de cette conviction sur le retour vers Allah, c'est une qualité intrinsèque aux croyants et elle doit nous habiter à tout instant, ce qui permet à ces personnes d'être parmi les premières qui rendent le Jannah, et Allah les cite en exemple, parce qu'ils s'acquittaient de leur devoir envers Allah en faisant les bonnes choses, en restant éloignés des péchés, mais parce que c'est une de leurs qualités. Ils avaient toujours cette crainte du retour auprès d'Allah. Est-ce que c'est clair? Parce que les versets hein, et les leçons, c'est très fin, très technique. Il faut vraiment s'accrocher et essayer de comprendre. Et si on comprend ça, c'est bien, c'est vraiment... Mashallah, ça nous apporte beaucoup. Je continue, on rentre un peu plus en profondeur de le tafsir. Il dit que c'est des gens qui ne se contentaient pas de faire les bonnes œuvres mutlaqan, comme un devoir. Et pour ne pas utiliser de termes péjoratifs comme un fardeau. Ce n'est pas que tu traînes les pieds pour venir à Fajr parce qu'il faut faire Fajr, il est obligé, et ainsi de suite. Ce n'est pas que tu restes éloigné du haram. Par exemple, pour cet exemple qu'on a cité tout à l'heure, tu t'abstiens parce que tu as une alliance de le doigt, ou parce que oui, ben, j'ai juré fidélité à ma femme, je suis un père de famille, je me dois d'être honnête. C'est pas du tout ça. C'est que tu penses au regard d'Allah sur toi à cet instant. Et ikhwan fillah, akhawat fillah, quand on intègre cette notion de retour vers Allah, ça nous permet de donner une autre dimension à nos bonnes œuvres. Ce ne sont pas des actions que tu accomplis comme un rituel. Ce sont des actions qui auront des qualités. Khashiyatullah. Il y aura la crainte d'Allah, une crainte révérentielle d'Allah dans chacune de tes actions et dans ton lien avec ton Seigneur. Il y aura également, ça on l'a déjà dit, la crainte du retour vers Allah. Et il y aura, et je vais insister sur ce troisième point, cette qualité, al-haya min Allah. C'est quoi al-haya? La pudeur. On peut traduire également al-haya par... Si on extrapole un peu, la honte. Comment on dit ça en ourdou ou en gujati? Quand il dit charam nimale, c'est du gujati ça, non? Nimale, c'est du gujati, tonton? Enfin, il y a un seul qui parle gujati ici, hein, c'est, je pense. Hein. Non, parle pas gujati. D'accord. Quand il dit charam nimale, on n'a pas la honte? La pudeur. C'est quoi le haya min Allah? C'est une qualité intérieure qu'on doit travailler. C'est quand tu es exposé au péché et que ton cœur penche. Est-ce que, je ne connais pas tous les prénoms, mais c'est quoi ton prénom? Ayman, il est fort, man. Il dit clairement son nom. Ayman, je commence à fatiguer là, et j'oublie qu'est-ce que je disais. Quand tu es, justement, exposé au péché, quand tu es, non j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Oui, quand tu es exposé au péché et que ton cœur penche vers ce haram, et j'allais demander, est-ce que c'est normal que le cœur penche vers le haram, Ayman? Si, non, la réponse était oui. C'est raté, mais c'est oui. D'accord, il ne faut pas arrêter devant. C'est oui. Parce qu'Allah Rabbul Izzah nous révèle, « Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratum bissou. » Allahu Akbar. Notre Seigneur nous a révélé que le nafs, la ammaratum bissou, le nafs, c'est dans la nature de l'être humain, de te pousser vers le mal. Donc, il ne faut pas, comme on dit tout à l'heure, il ne faut pas culpabiliser à l'excès. Dieu nous les mauvais, à nous-mêmes ben pire, à nous-mêmes ben... Parfois comme les anciens, hein, Nani et tout, les autres ben sauvages, les autres ben machin, ainsi de suite. Non, nous les pas ben sauvages, nous les pas mauvais, nous les pas pire que les autres. Nous sommes des êtres humains avec « Inna nafsa la ammaratum bissou ». Et c'est à moi de recadrer ce nafs et de faire en sorte de le rediriger pour le ramener vers l'obéissance permanente et constante d'Allah. Et justement, al-haya min Allah, c'est quand ton cœur penche vers le mal, tu as honte de désobéir à Allah. tu as honte que ton Seigneur te voit dans un moment où tu fais un pas vers cette jeune fille, cette jeune femme. Ou au lieu de faire ton travail, tu vas la voir pour dire, est-ce que je t'offre un café ou... Bref, vous savez comment ça se passe. À cet instant T, tu es dans, en infraction par rapport à la taqrabu zina, oui ou non ? N'approchez pas le zina. Tu as fait le premier pas parce que tu as parlé, tu as dit quelque chose qui n'était pas essentiel pour le bon déroulement du travail. C'est-à-dire, tu étais mal intentionné. Ton but, c'était... Non, je n'ai pas dit pécho. Va, arrêtez. Ton but, c'était... Je n'utilise pas les termes de jeûne. Ton but, c'était, na'ouzou billah, le haram. Al-haya minallah... Les caméras sont arrivées. Là. Ils vont me mettre la pression. Non, je n'ai pas terminé. Al-haya minallah... Prends mon livre. Al-haya minallah, à cet instant T, c'est réaliser, avoir honte que ton Seigneur te voit dans la désobéissance. Ça, c'est une qualité intrinsèque qui doit nous habiter et qui va nous permettre donc de rester dans le ta'a. Donc, c'était la première qualité qu'Allah a citée, le lien entre leur assiduité, leur obéissance aux ordres d'Allah. Ce qui les motivait, c'était « Yakhafu wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira » la peur, la crainte permanente de l'au-delà qui fait que leur action était riche en qualité. Et Allama Sa'di, rahimahullah, dit que ces gens-là, quand ils étaient exposés au haram, ils s'en éloignaient totalement et complètement par crainte du jour où ils seront ramenés vers Allah. Il dit que ce sont eux, qawmu ya'qilun, ce sont eux, ulul albab, ce sont eux les gens intelligents. Parce que l'intelligence du croyant, ce n'est pas uniquement l'intelligence sur le plan capacité, sur le plan quotient intellectuel. C'est cette perception et ce lien que j'arrive à faire entre ce dunya et le akhira, et à chaque instant, ou alors plutôt, il n'y a pas un moment qui passe sans que je ne pense à mon Seigneur. Est-ce que c'est intégré ça? Ça, c'est la première qualité, et on a les actions, et on a le amalul quloub, la crainte du jour où on retourne vers Allah. Combiner les deux, ça fait des gens parfaits et qui ont accédé au Jannah et qui obtiennent ce paradis. On ne démarre pas la caméra, on ne me filme pas pendant le programme, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. Deuxième qualité, jazakallah khair. Deuxième qualité, je retrouve, oui. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Et offre la nourriture, c'est mal traduit, malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Il y a des choses à développer, mais je ne peux pas me permettre avec le timing. C'est-à-dire que ce sont des personnes, je vais directement au message, à ce que l'on veut extraire, ça s'appelle le istinbat du verset. C'est que c'est des personnes qui eux-mêmes étaient dans le besoin. Eux-mêmes, ils ont des fins du mois difficiles. Là, on se reconnaît. Eux-mêmes, ils ont des fins de mois difficiles avec un budget difficile à gérer, où parfois les placards se sont un peu vides en fin du mois, ou à la moitié du mois, ça dépend. Et malgré ça, quand quelqu'un se présente à lui, quelqu'un qui n'a pas à manger, il donne. Et ça, c'est une action qui est magnifique, qui est aimée par Allah, et ça a été repris par le sahaba qui avait accepté l'invité du prophète sallam, qui avait donné à manger alors qu'il n'avait rien pour lui-même. Et Allah a révélé « Yuthiruna ala anfusihim » Wala ukan abim khazan. Vous connaissez cette histoire, c'est magnifique. Faites le lien avec vos acquis. Faites le lien avec tout ce que vous avez déjà entendu dans les différentes assemblées. Et donc, c'est quelqu'un qui va donner alors qu'il est lui-même dans le besoin, c'est-à-dire faire un sacrifice pour Allah. Ça, c'est amalun min a'malil qulub. C'est ça le mujahada, mujahadatun nafs. Faire un sacrifice pour Allah, sortir de notre zone de confort, faire quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, qui va nous mettre un peu en difficulté, mais on le fait pour Allah. Et voyez bien, c'est trop beau, c'est magnifique le tafsir. Si on commence à entrer dans le tafsir, on pourrait faire ça jusqu'à la mort. On pourrait consacrer toute notre vie à ça parce que c'est la parole de Dieu. Et elle est tellement riche en enseignements, ça traverse les temps. Ça traverse 15 siècles de révélation. Ça touche ton cœur, ça te fait l'effet comme si le verset avait été révélé aujourd'hui et ça te propulse en termes de spiritualité. Ça te permet de prendre un départ magnifique. Aucune bonne action zahir, externe, ne peut t'apporter, même un tawaf, ne peut t'apporter ce que la connaissance religieuse t'apporte. Parce que c'est ça qui va consolider ta foi et qui va faire que tes bonnes actions seront ancrées et avec les qualités souhaitées et attendues par Allah Rabbul Izzah. Ainsi donc, de ce verset, on ne parle pas juste de donner l'aumône. Non. « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ » Donner l'aumône alors que nous-mêmes, on est dans le besoin. Et ça, c'est un principe à retenir. Donner à son prochain quand nous-mêmes, on n'a pas forcément beaucoup se sacrifier pour Allah et de façon plus synthétique, faire passer le droit d'Allah avant notre propre droit. Si tu l'intègres, tu travailles une qualité de ton cœur, une qualité de ta spiritualité et on peut prétendre à être parmi Al-Abrar qui vont boire de ces sources le jour du Qiyam. Et puis, on ne peut pas développer ça, mais l'orphelin, le pauvre, ainsi de suite, et également Al-Asir, le prisonnier. Et je tiens juste à citer une anecdote lors de la bataille de Badr. Quelle année Badr? Ah, on connaît où t'es là. Badr. Badr, Zubair, l'an 2 de l'Égypte. Après, c'est une situation dramatique, Badr. C'était une bataille, il y avait des prisonniers, comme dans toutes les guerres, d'accord? Le prophète sallam demande aux sahaba d'aller donner à manger aux prisonniers. Les sahaba, ils ne comprennent pas. Et on parle de quel genre d'ennemis, là? On parle des personnes qui avaient déclaré la guerre à l'islam depuis « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». On parle des gens qui ont torturé la famille de Alou Yassir jusqu'à ce que Somaya meure de la façon qu'on connaît. Là, on ne peut pas développer. Et ainsi de suite. Et avec le contexte qu'on connaît, avec toutes les difficultés, je disais, ce sont ces gens-là, c'est des gens qui étaient animés d'une haine contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contre Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et qui ne voulaient qu'une chose, exterminer ces gens-là. Et avec de tels douchemans, de tels ennemis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, allez leur donner à manger, faites-les manger avant que vous-même vous mangiez. Et là, je vous ramène vers Al-Mubarak Fawri, l'auteur du nectar cacheté. Excellente traduction. Prenez l'édition qui est couverture mauve avec les cartes, c'est un bijou. Celui qui n'a pas sur sa bibliothèque, c'est vraiment dommage. Donc, il explique que voilà le droit, voilà l'humanisme. Dans la littérature française, l'humanisme, c'est quel siècle? Le 18e. Il faut connaître, c'est les bases aussi. Le siècle des Lumières. C'est là où on a un grand courant humaniste qui s'installe et puis ça va plonger avec le spleen de Baudelaire et de Chateaubriand. C'est bien aussi de savoir tout ça. C'est bien aussi de savoir tout ça. Non, j'allais dire qu'Omar ibn al-Khattab donnait beaucoup d'importance à la poésie, mais on ne peut pas se permettre à 11h05. Ainsi donc, l'humanisme en islam, venir en aide à des gens qui avaient l'épée en main, qui étaient prêts à te tuer, le prophète dit aux sahaba, allez donner à manger. Donc, parmi les qualités de foi du croyant, l'entraide, l'humanisme et le fait de venir en aide à son prochain et de mettre de côté la haine, l'animosité uniquement pour Allah Rabbul Izzah. On continue la suite du verset. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est pour Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. C'est-à-dire quand il donnait aux pauvres, je vais directement avec le commentaire, les sahaba ne voulaient même pas entendre de la part du pauvre jazakallahu khayra. Ne voulaient pas. Pourquoi? Ils voulaient aucune reconnaissance, aucune manifestation de choukr. Ils voulaient l'intégralité de leur récompense le jour des comptes. Et ça, c'est une qualité essentielle qu'on appelle la ikhlas, la sincérité. Et c'est une sincérité qui atteint tel niveau que tu donnes ton aumône pour Allah, mais tu donnes également toute ta vie pour Allah. Ul inna salati, c'était lui hier, il me semble. Wa nusuki wa mahyaya. C'est atteindre ce degré-là qui te permet d'avoir cette qualité du cœur et qui fait que tu peux être parmi les abrar le jour des comptes, le jour de Qiyam. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. On continue. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. On a compris, on parle encore du akhira, de l'au-delà. Ça a été cité en amont. Et c'est cité pour clôturer les qualités de ces gens, pour qu'on réalise que ça c'est la base, ça c'est la clé. La pensée permanente du retour vers Allah, c'est à l'origine de ton assiduité dans des bonnes œuvres et de l'atteinte de la piété qui est notre objectif à travers la'allakum tattaqoun. Et on peut rajouter, ça c'est pas de Ibn Kathir, mais c'est de moi-même, on peut rajouter que le fait que la personne pense sans arrêt au qiyama, ça prouve que la personne a al-ilmu biyawm al-qiyama. D'où l'importance de la connaissance religieuse. Mes chers frères, je vous le dis très clairement. Je vous regarde le blanc des yeux. Et je me regarde moi-même dans le blanc des yeux. S'il n'y a pas de connaissance religieuse, il n'y a pas de réelle pratique. s'il n'y a pas de connaissance religieuse, il n'y a pas de réalité de la foi. S'il n'y a pas de connaissance religieuse, il n'y a pas de istiqama, de fermeté de la foi jusqu'à la mort. Parce que c'est la connaissance d'Allah, de la parole d'Allah, je veux dire, c'est la connaissance de la parole d'Allah et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont illuminer ton cœur. C'est ça qui va permettre à ta foi de se dépasser et d'atteindre un niveau où tu vas avoir une pratique éclairée, ulul absar, une pratique éclairée avec al-haya min Allah, avec la crainte d'Allah, avec la recherche du regard d'Allah sur soi, plaire à Allah, ce qu'on appelle le ihsan, d'accord, ce qu'on appelle le ihsan, le plus haut degré de foi, et non pas aller vers une pratique traditionnelle où on peut chuter, vaciller lors de n'importe quel événement ou quand on est face à l'adversité, on va dire n'importe quoi sur le destin, ainsi de suite, al-ilm al-shari'i. Et ça, c'est un appel du cœur. Et c'est un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi. Apprendre, c'est quelque chose qui est impératif pour chaque croyant. Les assemblées religieuses. Il y a des assemblées de tafsir. Il y a des assemblées le matin fajr, Mouli Abbas, Mouli Ahmad, de hadith, oui ou non. Il y a Riyad al-Salihin, il y a différents ouvrages. Il y a des assemblées, le mardi soir, on étudie l'aqid, al-asma wa-sifat. Il faut assister à ce genre d'assemblées. Quels que soient les savants, quels que soient les ulama, du moment qu'on a une assemblée basée sur le Coran ou la Sunna, c'est la lumière. Prenez de ces deux lumières. Si on ne peut pas, on écoute les audios. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui est important, c'est actualiser, renforcer son iman au quotidien. Nous vivons, on avait dit, une époque où il y a tellement de péchés et d'appels vers le mal que la foi, elle finit par s'affaiblir. Et on a besoin de la lumière, de la connaissance pour redorer tout ça et pour donner plus d'intensité à notre iman et à notre pratique. On continue. Je pense que j'en ai pour 15 minutes encore. On est dans la sourate Az-Zariyat. Ceux qui veulent prendre leur téléphone, c'est une bonne chose. Parce que les versets sont un peu... Voilà quoi, si, je ne vais pas répéter la traduction à chaque fois. On est dans la sourate Az-Zariyat, versets 15 à 19. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Même accroche. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources. On ne commente pas les bienfaits du paradis. Ça, c'est d'autres assemblées. Mais ce qu'on retient, c'est que cette fois-ci, Allah les a appelés comment ? Ayman. Innal muttaqina. Allah les a qualifiés de muttaqin, de pieux. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient atteint la'allakum tattaqun. Ce que nous essayons d'atteindre en fin de journée avec le ramadan. C'est des gens qui ont atteint les plus hauts degrés de foi. Et toutes les actions intérieures qu'on a essayé d'énumérer en introduction et qu'on essaie de développer à la lumière des versets, ils l'avaient en eux. Et parce que ça, c'est shahadatun min Allah. C'est Allah qui atteste. Nous, à notre niveau, en tant qu'être humain, vous savez qu'il est strictement interdit de dire que ah, ça, c'est un bouzoulouk, ça, c'est un homme pieux. On n'a pas le droit de dire. Parce que Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Personne n'a apporté un jugement, même positif. Tout est dans les mains d'Allah. Allah seul le sait. Mais Allah les a qualifiés de inna. Et vous savez que quand il y a inna, c'est pour mettre l'emphase. Mettre l'emphase. Eh ouais. Inna al-muttaqina, certes, les pieux. Et Allah les a qualifiés de pieux. On retient ça et on ne commente pas ce passage du verset par rapport au timing. Inna al-muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina. Oh, c'est magnifique. Allah, Allah, Allah. Akhidina ma atahum rabbuhum. Recevant ce que leur Seigneur leur a donné. Il y a deux tafsirs. Il y a un, qu'ils reçoivent tout ce qu'Allah leur a donné dans le paradis. Et l'autre tafsir qu'on retient, c'est qu'ils ont reçu tous les ordres et les interdits de leur Seigneur et ils les ont appliqués avec amour et conviction et dévotion. C'est-à-dire que quand ils faisaient la salat, ils le faisaient par amour et non pas par fardeau. Quand il s'agit de rester éloigné de l'adultère, des péchés, ainsi de suite, de tous les péchés, ils le faisaient par amour et crainte d'Allah. Akhidhina ma atahum, recevant ce que leur Seigneur leur a donné, ils le faisaient avec amour et crainte d'Allah, avec dévotion, avec présence de cœur et non pas juste le faire parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Et cette qualité, il y avait d'autres choses à dire, mais je résume, ça s'appelle al-istislam ou lillah. Al-istislam, ça veut dire la soumission. D'ailleurs, le mot islam, c'est la racine, c'est soumission, celui qui est soumis à Allah. C'est que développer cette notion de soumission, j'appartiens à Allah, ce que mon Seigneur me demande de faire, je le fais, sans discuter. Ce que mon Seigneur m'a interdit de le faire, intahayna ya Rabb. Quand Allah Rabbul Izzah a révélé le verset d'interdiction de l'alcool. Vous savez que l'alcool était autorisé. Jusqu'à Madina, l'alcool était autorisé en islam. Jusqu'à Madina, Munawwara. Et quand Allah a révélé, Fajtanibuhu, arrêtez, il est stipulé que les sahaba, parce que c'était l'habitude des arabes de boire de l'alcool de date. D'accord, les sahaba avaient des tonneaux. des flux d'alcool de date chez eux. Quand l'ordre est arrivé, ils ont cassé leur tonneau, ils ont versé dans la rue et il y avait des fleuves de vin, d'alcool de date qui coulaient dans les rues de Madina et de Intahina, ya Rab, Intahina. Ça s'appelle Shiddatul Imtithal ou bi Amrillah. Quand Allah te dit non, il n'y a pas à discuter. C'est une qualité intérieure que nous devons travailler. Ce qui veut dire que quand quelque chose d'interdit va se présenter à toi, il n'y a pas à chercher 8 mai dans le contexte actuel. Certains savants sont d'avis. J'ai entendu quelqu'un sur TikTok dire qu'il n'y a pas à chercher khuruj, il n'y a pas à chercher d'exception ou de porte de sortie. Mais tu penses que quand même à notre époque, c'est toujours interdit. Là où Allah, ton Seigneur, t'a dit ne le fais pas. On concerne l'intérêt à riba, ne consomme pas l'argent haram, tu ne cherches pas d'autres moyens. Ce qu'Allah interdit, ça, c'est une qualité du cœur. Et comprenez, je pense que là, on est très clair. Quand on a intégré l'islam, que tu appartiens à Allah, tu es là pour l'obéir, pour faire ce qu'il te demande, pour rester éloigné de ce qu'il a rendu interdit, tu deviens muttaqi. C'est pour ça qu'ils ont eu le titre innal muttaqina, parce qu'ils se sont soumis à Allah complètement. Et j'avais cité des exemples avec 3 actions et comment l'islam se met en place, mais je pense que le message est passé. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, car ils ont été auparavant bienfaisants. 2 tafsirs, al-ihsan, il y a 2 catégories d'ihsan, al-ihsan bi'ibadati rabbihim, ils ont été performants dans l'adoration d'Allah jusqu'à atteindre le degré de ihsan. Et qui me donne une définition d'ihsan? Je le donne, an ta'budallaha ka'annaka tara. Adore Allah exactement comme si tu le voyais. Et là, permettez-moi de tirer l'exemple quand même. Quand tu es en prosternation, tu es conscient qu'Allah te regarde, t'observe, t'écoute, t'entend et Allah lit et voit ce qu'il y a de ton cœur. Si tu es concentré ou non. Si tu es en train de demander quelque chose avec conviction ou alors tu es en train de penser à autre chose en même temps. C'est cette prise de conscience qui est une réalité. Cette prise de conscience va t'amener à l'excellence de l'accomplissement des bonnes actions. À l'ihsan, c'est également quand tu es exposé au péché, tu as cette même conviction. Quelqu'un qui sait qu'au-dessus de lui, Allah est en train de l'observer. Il va aller vers le haram, là, wallah. Ça, c'est le plus haut degré de foi. C'est l'aboutissement de la taqwa. Ça se place juste au-dessus. C'est le ihsan. Et je tiens mon exemple. Écoutez, on est dans Ramadan, on peut se permettre 2 minutes en plus, non? Personne ne doit aller manger ou autre chose. On se permet, on est là pour ça. L'année dernière, on avait enseigné un doua, le doua que le prophète me lisait de le qiyamul layl, de le mois de Ramadan et en dehors. Qui se souvient de ce doua? Si personne ne se souvient, c'est un échec personnel. Allah ybarik fik, Luqman, notre jeune hafiz, enfin il n'est pas jeune, hein, mais il vient de finir son hifz, barakallah fik. Allahumma ghfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. Doua magnifique, masnoun. Que nous devons lire dans nos prosternations en qiyam, en tahajjud, dans lequel je demande, oh Allah, pardonne mes péchés. Allah maghfir li dhanbi kullah. Oh Allah, pardonne tous mes péchés. Les plus petits, les plus grands, les plus graves, les moins graves, ce que j'ai commis ouvertement, ce que j'ai commis seul, sans que personne ne me voie. Pardonne-moi. Les savants disent que c'est un doigt, c'est l'enseignement du prophète sallam, celui qui n'avait pas de péché. Il nous enseigne ça. Quand tu le lis, ne le récite pas comme un... C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ne le récite pas comme un calément. Pas comme le calément que tu fais lire à tes enfants. Une autre histoire, ça. Pas comme le calément que tu fais lire à tes enfants avant de dormir, que ce n'est que répétition. Pense au sens de Allah, marfil li dhanbi kulla diqqahu wa jillahu ilahir al-kalam. Pense à tes péchés. Pense à tes manquements. Pense à tes erreurs. Regrette. Pleure. Pense à ton Seigneur et que tu es en prosternation de la situation où tu es le plus proche d'Allah. Et c'est là, et c'est à cet instant, que tu peux atteindre le degré de ihsan. Donc ces gens-là, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, ils ont atteint le summum de l'ihsan, de l'adoration, mais également al-ihsan ila ibadillah, le fait de bien agir avec les autres, donner l'aumône, venir en aide à son prochain. Et là, on ne développe pas parce que ça reprend la première thématique, la thématique qui a été abordée dans le premier couplet de verset. Kanu qalilam min al-layli ma. Ils dorment peu la nuit. Pourquoi il y a plein d'enfants qui viennent tout d'un coup? Ah, le programme est terminé. Ok, soyez les bienvenus. Ils dorment peu la nuit. Quand on parle de Qiyamul Layl, qu'est-ce qui ressort comme qualité? je synthétise, je suis désolé. Les enfants me mettent la pression. Comment on peut synthétiser Qiyamoulel? Qiyamoulel, c'est tahajjud. Hein? Tahajjud est synonyme de sacrifice et de sincérité. Quand tu te lèves pour te prosterner devant ton Seigneur seul dans le dernier tiers de la nuit, c'est que tu es sincère. Et c'est que tu as sacrifié ton sommeil pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète avait dit au début à Madina que vous voulez entrer dans le Jannah, faites telle chose et telle. Parmi ces choses, faites salam à tout le monde. Ça, c'est une qualité importante. Cette ouverture d'esprit, de cœur, faire salam à tout le monde, mettre de côté l'orgueil, les préjugés, faire salam à tout le monde. Je ferme la parenthèse, mais également prier wan nasu niyam, prier quand les gens dorment. Tadkhuluna al-jannata bisalam, Allahumma ja'alna minhum. Vous entrerez au paradis en paix, salam. Alors que là-haut, on connaît les ahwal, les difficultés du qiyama, le jahannam qui sera présenté, le soleil sur les têtes, les ahwal, difficultés de l'au-delà. Yawman abousan qamtarira, comme ça a été décrit dans Sourate al-Insan. Mais toi, tadkhuluna al-jannata bisalam, en paix, ça va doucement. Allah te fait entrer dans le jannah avec toute facilité. Qiyamul layl. Tahajjud, qu'Allah me donne tawfiq de le faire en premier, mais pas qiyamul layl du ramadan. Qiyamul layl de toute l'année. Ça doit être une qualité intrinsèque, propre aux croyants, se réveiller dans la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, pour prier Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas pour rien si le prophète sallam a dit également que parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, je dis maintenant, on a fini les devinettes, parce qu'on doit finir. « Rajulun dhakar Allah khalian fa fadat aina. » Un homme qui pense à Allah dans l'obscurité de la nuit, quand personne ne le voit, et que les larmes coulent de ses yeux. Des larmes qui coulent par amour et par crainte d'Allah. C'est parce que tu viens de dire « Allah maghfir li dhanbi kullah » et que tu es en train de pleurer parce que tu penses à tes péchés quand tu avais 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, tes dérapages, tes erreurs de jeunesse, ainsi de suite. Même si tu as demandé istighfar pendant 10 ans, tu continues à le demander et tu pleures pour tes péchés. Ça, c'est quelque chose qui est aimé par Allah, ce croyant qui le fait avec sincérité, et ça garantit une place sous l'ombre du trône d'Allah. Et ça te permet de postuler au grade de Innal Muttaqina fi Jannati wa Uyun, parce qu'ils étaient qalilan min al-layli ma yahja'un, ils dormaient peu la nuit. C'est pas terminé. Wa bil ashari hum yastaghfirun. J'ai lu ce verset avant-hier et j'ai eu des frissons. Le commentaire de As-Sa'di, franchement, bon après en état de jeûne, il y a des choses qui se passent aussi. Il dit que c'est des gens qui, après avoir passé la nuit en prière, ils ne sont nullement fiers de leurs actions. C'est-à-dire que le croyant ne doit jamais être fier de ses actions, être sûr de lui. Ne prenez jamais les autres de haut. Dans le Ramadan, quand vous voyez quelqu'un qui arrive et qui n'est jamais là en temps normal, même s'il se met au premier rang, je connais que le premier rang s'est prisé. Chacun a leurs petites habitudes. Lui, c'est l'aile droite, l'aile gauche. Lui, je sais. Mais quelqu'un qui démarre comme ça, n'ayez jamais de préjugés. Et quoi il fait là, lui? Où ça, il sort? Il doit quel trou il sort? Ça fait shaitan. Et puis là, na'oud billah. Personne ne sait qui est meilleur que l'autre. Personne ne sait comment on va mourir. Il y a un hadith qu'on avait expliqué avant-hier. Le prophète me dit, c'est une situation dramatique, ça. Je prends le temps de le faire parce qu'on a besoin de ressortir de là avec des acquis. Le prophète me dit qu'il y aura des personnes qui auront passé leur vie dans l'adoration. La barbe a blanchi dans le tahajjud de l'ibada, mais à un moment, ils vont prononcer une parole. Une parole qui va les faire chuter dans les abysses de l'enfer qu'Allah nous protège. Une parole, ça peut être une parole de racisme, une parole de haine, ou une parole d'estézabidine, ou une parole où tu as blessé quelqu'un. Allah est tellement mécontent que tu as offensé un de ses serviteurs qu'Allah décrète que tu passes du rang du Jannah au rang du Jahannam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hadith de le prophète sallam, mise en garde sévère. Donc personne n'a le droit de porter un jugement sur son prochain ou de considérer lui c'est un pieux, même un alim. Je ne sais même pas pourquoi je le dis d'ailleurs. On respecte le savant parce qu'il a la connaissance, mais personnellement, je ne considère personne supérieur à son prochain et je traite tout le monde de la même façon, avec respect. Le respect et la considération pour chaque personne, sans en faire trop, sans sacraliser quiconque, parce que le lien du cœur avec Allah, c'est quelque chose qui est secret. Je ferme cette parenthèse. On disait donc juste avant ça, oui, le croyant ne doit jamais être fier de ses bonnes actions, et eux, après avoir passé leur nuit en tahajjud, wabil ashari hum yastaghfirun, j'ai pas traduit, Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Al-Ashar, vous retrouvez quel mot? Suhur, sihri. C'est-à-dire que de ce moment, après le dernier tiers de la nuit, après le subh al-sadiq, comme on dit, jusqu'au fajr, ils restaient dans le istighfar, amal important, partie des actions oubliées. Être dans l'istighfar le matin après le sihri jusqu'à la salat. C'est le moment, je peux pas, il y a des hadiths qui parlent de ça et des commentaires d'Ibn Kathir qui sont magnifiques. C'est un moment clé pour obtenir le pardon d'Allah. Et Sa'di dit, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, dit que alors que notre Seigneur a cité les qualités de ces gens, la yarawna li anfusihim maqaman, ils ne se considèrent nullement comme étant supérieurs aux autres ou étant pieux, bien au contraire, après avoir passé une nuit en ibadah, ils demandent à Allah pardon pour leur manquement, pour leurs erreurs, manquement qu'il y a pu avoir de leur concentration dans leur salat. Là, on est vraiment sur le summum de la foi qu'Allah nous accorde cette qualité. Et on complète ce passage. Wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahroum, et de leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et ça, on ne commente pas. Pourquoi? Parce que ça a déjà été commenté dans les tafsirs de la sourate Al-Insan. Il nous reste un dernier couplet, 5 minutes. On est dans la sourate Ar-Ra'd. On va aller en mode beaucoup plus speed. Walladhi, sourate Ar-Ra'd 20-22. Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. Je vais aller très vite, je vais aller droit au but. Ce sont des personnes qui, quand on parle de sila, ça nous rappelle un terme, silatur rahim. Entretenir les liens de sang, les liens de parenté. Hein, tu sais, c'est important, les liens de parenté, ça c'est la base. Et est-ce que c'est conservé, les liens de parenté? Ça va en éclat, Wallah Moustahan. Dans très peu de familles, on a encore cette union sacrée où les gens se réunissent, ils font mashwara, ils partagent, ils se donnent conseils mutuellement et ils s'entraident, ils sont solidaires, c'est en train de se perdre. Il suffit que le patriarche, le papa ou la maman est décédé pour que chacun fasse sa vie, oui ou non? Du moment que le papa ou la maman est décédé, l'héritage est partagé, chacun fait sa vie. Eh bien, c'est vrai qu'on a une famille, chacun gère ce qu'il a à gérer, les cousins ne se fréquentent plus, ainsi de suite. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Et Allama Sa'di rahimahullah, il dit qu'ils entretiennent les liens avec la famille. Mais attention, là on a une bonne action qu'on connaît, qu'on intègre, qu'on comprend et qu'on souhaite mettre en application. Mais le amal al-qulub vient tout de suite. C'est pour ça que ces couplets de versets, c'est une richesse. Parce que ça te permet de voir une action que tu connais, que tu fais, je ne dis pas que tu maîtrises, mais tu fais, mais peut-être ce qui te manquait, le amalul quloub, qui est le moteur de l'action, craignent Allah et le jour de reddition de compte, bien qu'ils entretenaient les liens avec la famille par amour et crainte d'Allah, sans jamais attendre une quelconque reconnaissance ni un retour de bon comportement. Et ça, c'est essentiel, parce que qu'est-ce qui cause malheureusement beaucoup de ruptures au sein d'une famille entre sœurs, belles-sœurs. J'ai dit belles-sœurs, c'est chaud en général, très souvent. Si je fais ihsan, j'invite chez moi et qu'elle, elle n'a pas invité, regarde ça, moi, m'y invite, il n'y invite pas. Et on coupe les relations. Si moi, j'ai bien agi et qu'elle n'a pas rendu l'appareil, bref, on va essayer d'équilibrer les relations. Non, non et non. Le prophète me dit bien dans un hadith que innama silatu, entretenir les liens, c'est le fait avec les gens qui t'ont tourné le dos. Et non pas uniquement avec ceux qui t'aiment et qui te fréquentent. Parce que ça, c'est accessible à tout le monde, ça. Si ton frère ou ta soeur t'aime bien, vous êtes toujours ensemble, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quand c'est quelqu'un qui t'a tourné le dos, cette fameuse belle-sœur qui a le warning, le mise en garde de tout le peuple, c'est vers elle que tu pars et tu essaies de la ramener. Même si la réaction, elle est déplacée, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté de son côté. Pour Allah, c'est la crainte d'Allah qui est à la base de notre lien avec Allah, mais qui est également à la base de notre lien avec les gens. Et ça, c'est une qualité essentielle à intégrer. Celui qui l'intègre peut espérer être au Jannah avec وَالَّذِينَ يَرْسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Et on complète, ça c'est, là je dis la vérité pour une fois, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, et qui endure de la recherche de l'agrément d'Allah. On va se focaliser sur ce passage. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. On avait dit tout à l'heure qu'il y a trois catégories de patience. La patience dans les bonnes œuvres. Ça, on a cité de le premier verset de la sourate Al-Insan, le premier verset qu'on a commenté. La patience face au péché, et ça aussi, on a dit dans « وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُهُ مُسْتَطَرَ. Donc, on ne revient pas dessus. La troisième qualité de patience, c'est « الصَّبْرُ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ. C'est être patient, endurant dans les épreuves qu'Allah t'envoie. Quand Allah t'envoie une épreuve, problème de santé, problème de famille, problème de travail, et ainsi de suite, c'est là qu'on voit est-ce qu'il y a cette épaisseur de foi qui te permet de t'en remettre à Allah et d'être convaincu que c'est une épreuve qui vient d'Allah et que l'ouverture ne peut venir que d'Allah et j'accepte cette épreuve parce que Allah a tel objectif pour moi, c'est, ça découle de sa sagesse. On ne va pas développer, c'est tout simplement l'acceptation du destin. Et donc, ces personnes-là avaient cette qualité, sabaru, mais pas sabaru seulement. Sabaru, c'est quelque chose que je comprends, moi, qui être patient, ça je comprends. Et on dit, tout le monde dit, Inna Allah ma sabrin, oui, sois patient, arrête de plaigner, arrête de pleurer, et tout, nada moun la gagne, la souffre plus que haut et tout. Oui, très bien. Mais ce n'est pas que ça. Parce que l'être humain ne pourra pas atteindre l'objectif avec Walladina Sabaru seulement. Il faut le amal al-qulub qui est greffé avec Walladina Sabaru betira awajhi rabbihim, qui endure de la recherche de l'agrément d'Allah. Ce n'est pas très, très bien traduit. Qui font preuve de patience à la recherche, c'est mieux comme ça, à la recherche de l'agrément divin. C'est-à-dire que ta patience, ton épreuve, ta maladie, et je vais dire le mot cru, ton cancer, la santé aux personnes éprouvées et qu'Allah nous accorde la protection, tes problèmes que tu as avec un enfant qui est malade ou avec quelqu'un de ta famille qui est souffrant et qui t'affecte, qui te fait mal, ça te fait saigner ton cœur parce que tu le vis dans ta chair au quotidien, il ne suffit pas d'être patient dans le sens où tu acceptes et tu attends les jours passés et tu es résigné à cette situation. Saadi, il a des paroles, j'allais dire un peu dur, hein, ce n'est pas de ses habitudes. Il dit parce que ça, tout le monde le fait, kafir ou muslim. Parce qu'il n'y a pas que le musulman qui est éprouvé, tout le monde est éprouvé. Même que celui qui n'a pas la ilaha illallah, il accepte. Le médecin dit voilà, diagnostic, c'est un cancer, c'est telle chose, il faudra faire la radiothérapie, la chimio, il faudra faire ça. Il accepte. Il va se plaindre, il va crier deux coups, mais après un moment donné, ben, il fait avec, on avance. Et on, voilà, la vie ne s'arrête pas. Il dit mais tu ne dois pas être à ce niveau, tu dois dépasser ce niveau. Intègre que ce qui te touche, c'est de la part d'Allah et recherche l'agrément d'Allah à travers la situation d'épreuve que tu vis au quotidien. Et là, j'aimerais donner un exemple, la perte d'un proche. Je sais, dans l'assemblée, beaucoup parmi nous, je sais, ceux qui ont perdu un proche, quand le prophète alayhi salatu wassalam avait perdu Khadija radiallahu anha, l'amour que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour Khadija, on avait développé ça l'année dernière à Saint-Pierre. C'était vraiment yudrab bihil mathal. C'était l'amour par excellence. C'était un amour qui avait atteint son paroxysme en termes d'intensité et de sincérité. Parce que c'était parti sur une situation difficile. Khadija radiallahu anha avait soutenu le prophète depuis le début. Quand tout le monde le traitait de menteur, elle croyait en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui l'a amené voir Waraqa bin Nawfal. Quand l'ange Jibril est venu, que le prophète était complètement angoissé. Il ne savait pas ce qui se passait. Khadija radiallahu anha, c'est elle qui a été solidaire avec le prophète sallam quand il y a eu le grand boycott de 2 ans des Banu Hashim, où il n'y avait plus rien, rien à manger. Ils mangeaient des feuilles d'arbre. Et Khadija, qui n'était pas Hashimia, elle n'était pas concernée par ce boycott. Par amour pour son mari, elle l'a suivi. C'est-à-dire que cet amour a atteint un tel degré, c'est le summum. Et en l'an 10 de la prophétie, Allah Rabbul Izzah reprend Khadija radiallahu anha. La douleur, la souffrance, la tristesse que le prophète a pu ressentir à cet instant, ça dépasse tout ce que nous pouvons ressentir à notre niveau à la perte d'un proche. Mais le prophète n'a jamais dit une parole déplacée. On le voyait de son comportement. Il donnait de la viande à manger à la famille de Khadija. Quand il entendait la voix de Hala bint Khuwaylid, il était content parce que ça leur rappelait la voix de Khadija radiallahu anha. C'était un amour qui avait traversé le temps. Même après sa mort, le prophète continuait à l'aimer. Mais jamais Nabiullah s'est plaint. Et là, on a Yaqub alayhi salam, quand il a perdu Youssouf et Benyamin. Yaqub alayhi salam avait tellement pleuré, et là aussi les savants disent qu'en termes de tristesse, c'était yudrab bihil mathal. Personne ne sera aussi attristé que Yaqub. Il en a pleuré jusqu'à wabyaddat aynahu min al-huzni fahuwa kadhim. Wabyaddat, il en est devenu aveugle. Vous rendez compte, ce père a tellement pleuré la disparition de ses 2 enfants qu'il en a perdu la vue. Il pleurait tous les jours. Mais malgré ça, c'est-à-dire l'expression de notre tristesse, je le comprends, l'expression de notre tristesse, c'est humain. On peut, l'expression interne, on peut pleurer, on peut être attristé, mais ne jamais se plaindre. Et Yaqub disait, « Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Il ne s'est jamais plaint aux créatures. Donc ça fait partie des qualités de ces gens qui ont accédé au paradis. Une patience, mais une patience vraiment pour Allah. Wa qamu salat, qui accomplissait la prière, selon l'a développé. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, qui donnait dans le chemin d'Allah, venant en aide aux pauvres. Ça, on l'a développé dans la sourate Al-Insan. Et ça, c'est le dernier point. Là, c'est vraiment le dernier. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, traduit par et repousse le mal par le bien. Les savants disent que ça, c'est le summum de le bon comportement. Dès que quelqu'un te fait du mal, tu ne le tiens pas rigueur. Pas de rancœur, pas de haine, pas de fameux la vengeance est un plat qui se mange froid, du tout. Bilaks, quelqu'un te fait du mal, toi tu fais ihsan envers lui. C'est difficile. Ça, c'est pas facile, ça. Il est beaucoup plus simple de mettre son musalla par terre et faire deux rakats. Ouais. Il est plus simple de lire un siparat Quran après la salah. Ça, tout le monde peut le faire. Mais quand quelqu'un te déclare la guerre, quelqu'un te fait du mal, et que toi, bilaks, tu as un voisin qui t'embête, qui te fait des misères, et toi tu lui offres un plat, tu agis bien, ça c'est une qualité des gens qui entrent au paradis. Et qu'est-ce qu'Allah a dit cette fois-ci? L'annonce de bonne nouvelle vient à la clôture du couplet de versets, où la ikalahum, uqbaddar, à cela la bonne demeure finale. Donc voilà, on a énuméré certaines qualités, soumission à Allah, Rabbul Izzah, persévérance dans les efforts, des efforts durant toute la vie, abandon des péchés, mais vraiment axé autour de l'amour et de la crainte d'Allah, la crainte du retour vers Allah, la pensée permanente et omniprésente de l'au-delà, la connaissance religieuse qui nous permettra d'alimenter cette pensée permanente de l'au-delà, se sacrifier pour Allah, faire passer le droit de son prochain avant son propre droit, faire passer le droit d'Allah avant son droit, son propre droit, son sommeil, en pensant à ceux qui font le qiyam ou la prière de la nuit, une sincérité mais au optimum, au maximum, où on n'attend rien, rien des gens et uniquement l'agrément d'Allah, l'humilité. Ne jamais se considérer comme un bon croyant, au contraire, demander istighfar en permanence, même après nos bonnes œuvres, intégrer le droit des pauvres comme étant un mode de fonctionnement normal. La société est régie autour de la zakat, autour de la sadaqa, autour de l'entraide, ta'awanu al birri wa taqwa. C'est pas qu'on vient, on aide les pauvres pendant le ramadan, on fait un truc de distribution de colis alimentaires, non, c'est toute l'année. Normalement, on doit aider les gens tout le temps, régulièrement. Je ferme la parenthèse. Silatul Rahim, lien de parenté avec ses proches, famille proche, famille éloignée, pour Allah. Quel que soit le retour de ces personnes, on le fait pour Allah. La patience dans les bonnes œuvres, dans l'éloignement des péchés, la patience dans nos épreuves, à la recherche de l'agrément d'Allah, la salah, l'aumône, et rendre le bien aux gens. Tout ça, ces actions de cœur vont nous permettre d'atteindre les hauts degrés de foi, parfaire, illuminer nos bonnes actions et obtenir les titres magnifiques qu'Allah a cités dans le Coran. On parle de Al-Muttaqun, les pieux. On parle de Al-Abrar. On parle de Ibadullah. On parle de Ibadurrahman. Il y en aurait à développer. Ibadurrahman, les ladhina yamshuna ala al-ardi hawna, ala hudam min rabbihim, al-muflihun, al-muqarrabun, ashabul yamin. Et tellement de termes élogieux concernant les gens qui ont atteint le sommet de la foi, qu'Allah nous permet de développer ces a'malul quloub, ses actions intérieures, et ses a'malul jawarih, ses actions externes, pour obtenir ce jannah qu'Allah a promis à ces personnes, qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette assemblée, et que s'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations, je sais, c'était condensé, mais qu'Allah nous permet d'intégrer le maximum, et qu'Allah nous permet de nous réveiller spirituellement, de comprendre que le lien avec Dieu, ce n'est pas uniquement des œuvres qu'on accomplit de façon externe, mais c'est également un lien intérieur avec Allah qu'on doit essayer de travailler en demandant à Allah de nous accorder son aide et de nous guider vers le salat al-mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Merci pour votre écoute.